Et le journal d'Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Des malades du cœur contraints d'attendre pour être opérés. Les déprogrammations, c'est déjà une réalité à l'hôpital pour faire face à la nouvelle vague de Covid. Nous serons à la Timone à Marseille où seul un bloc opératoire sur quatre fonctionne en chirurgie cardiaque. Beaucoup de non-vaccinés en réanimation. Emmanuel Macron s'en prend violemment ce matin à ses réfractaires à la vaccination et fait dérailler le débat à l'Assemblée. On reviendra sur cette nuit agitée. Dans ce journal aussi, la piste terroriste relancée après l'explosion survenue sur le Dakar. Et un film rafraîchissant qui va nous faire du bien, Licorice Pizza, le nouveau long-métrage de Paul Thomas Anderson.
Et au micro de Léa Salamé dans 20 minutes à 7h50, cinéma encore, avec l'écrivain et réalisateur Emmanuel Carrère et l'actrice non professionnelle Hélène Lambert pour le film Ouistreham. Et c'est la pression maximale sur les non-vaccinés par les actes, mais aussi par les mots ce matin.
Oui, ils sont encore 5 millions de Français à ne pas avoir reçu leur dose. Et Emmanuel Macron ne les ménage pas, c'est le moins que l'on puisse dire. « J'ai très envie de les emmerder », déclare le président dans un entretien aux Parisiens. Et il enfonce le clou. « Limiter leur accès à la vie sociale, on va continuer à le faire ». Le chef de l'État a répondu en ces termes à une question sur les déprogrammations en cours à l'hôpital. La barre des 20 000 hospitalisations Covid de nouveau franchie hier. Et donc des opérations annulées, reportées pour faire de la place en réanimation. Comme à Marseille, où l'on compte déjà 60% de déprogrammation en chirurgie cardiaque à la Timone. C'est le reportage de William Delesseux.
Son plateau repas posé sur la table, Jean-Yves n'y a pas touché. Il attend son opération à cœur ouvert prévue normalement ce matin.
Je suis arrivé lundi, la réanimation n'était pas prévue, donc impossible encore de se faire opérer.
Voilà, les blocs sont à partir de là-bas.
À l'étage du dessous, seul un bloc opératoire sur quatre fonctionne en ce moment, explique le professeur et chef de service Frédéric Collard.
Tous les patients qui doivent être opérés du cœur doivent aller en réanimation après l'opération. Et comme les places de réanimation sont occupées par des patients qu'on soigne du Covid, ça limite les places de réanimation pour les autres patients. L'attente d'une intervention du chirurgien cardiaque, c'est déjà une période de stress. Donc ce qui fait que déjà le fait d'attendre, c'est pas bien. Et bien évidemment, même les opérations moins urgentes, ben, plus on attend, plus le cœur peut entre-temps souffrir, se fatiguer. C'est pour ça qu'on espère que cette période va durer le moins longtemps possible.
À cela s'ajoute le manque de personnel. La plupart des soignants se trouvent redéployés en réa au chevet de ces patients Covid non vaccinés.
Dans certains quartiers de Marseille, on est à peine à 30% de vaccination. Donc c'est la raison pour laquelle on est beaucoup plus impacté. Il faut les prendre en charge comme les autres. Et donc on essaie de gérer au mieux cette situation sur laquelle on n'a pas la main.
Dans les services de réanimation, à la Timone, 9 patients sur 10 ne sont pas vaccinés. Marseille, William Delesseux, France Inter.
Les non-vaccinés majoritaires en réa et donc dans le viseur d'Emmanuel Macron, je cite encore, c'est en les emmerdant davantage qu'on va réduire cette petite minorité de réfractaires. Les mots sont explosifs, les réactions nombreuses. Levée de boucliers à gauche et à droite, on dénonce une faute politique, une insulte, un mépris pour les Français. Conséquence à l'Assemblée nationale, l'examen du projet de loi sur le pass vaccinal est suspendu une nouvelle fois. Ces propos présidentiels sont dangereux pour le député insoumis de Seine-Saint-Denis, Alexis Corbière.
C'est une stratégie politique. C'est pas un mot qui a échappé au président de la République. On est dans une interview extrêmement maîtrisée. Mais moi, je suis en désaccord avec cette stratégie périlleuse qui vise en quelque sorte à fracturer les Français entre eux. C'est une politique du bras d'honneur. C'est aller vous faire voir, pour le dire plus gentiment, je vous emmerde. Donc je n'ai plus rien à vous dire, je ne cherche plus à vous convaincre et je cherche à vous contraindre. Et l'interview est assez explicite quand on l'aligne. Ils ne pourront plus aller au restaurant, ils ne pourront plus aller dans un café, ils auront sans doute des difficultés même pour aller travailler, etc. etc. Bon, ça c'est pas une politique de conviction et d'aller vers des populations les plus fragiles qui sont parfois les moins bien vaccinés, c'est autre chose. C'est une politique arrogante.
Et dans l'hémicycle, les discussions sur le pass vaccinal sont censées reprendre cet après-midi à 15h. Enfin, dans ce long entretien avec les lecteurs du Parisien, Emmanuel Macron évoque aussi la présidentielle, évidemment. Est-il candidat ? Pas de faux suspense, j'ai envie, répond le chef de l'État. Mais pas encore de déclaration, je dirai ce qu'il en est dès que les conditions sanitaires le permettront.
Et sur le front de l'épidémie, justement, 7h34, un nouveau record quotidien.
Plus de 270 000 contaminations en 24 heures hier, un conseil de défense sanitaire sanitaire est prévu ce matin, surtout pour faire le point sur les mesures déjà adoptées. À l'étranger, le Danemark affiche l'un des taux d'incidence les plus élevés au monde. Malgré la fermeture des écoles pendant 3 semaines, les vacances ont été rallongées. C'est la rentrée ce matin. Avec une polémique à la clé, les petits Danois n'ont pas apporté le masque en classe, Julie Pietri.
Pas de masque pour les élèves et une visière de protection transparente pour les professeurs, pas plus. C'est le protocole au Danemark, explique Dorte Lagneux, vice-présidente du syndicat des enseignants danois.
En tant qu'enseignant, nous ne sommes pas autorisés à porter le masque. Les autorités pensent qu'il est très important que le visage des enseignants soit visible. Nous pensons que les professeurs devraient être autorisés à porter ce masque. Les taux d'infection sont très très élevés, plus de 20 000 nouvelles infections chaque jour. Beaucoup de nos membres sont très inquiets.
Nombreux sont aussi les enseignants qui réclamaient le retour du présentiel pour le bien des enfants. Une position défendue hier également par Hélène Probst, la directrice adjointe de l'Agence nationale de santé.
Nous devrons accepter un certain niveau de contagion chez les enfants dans un avenir proche, car le prix à payer pour éviter complètement la contamination chez les enfants est tout simplement trop élevé du point de vue de leur bien-être mental.
Le gouvernement demande aux parents de tester leurs enfants à la maison 2 fois par semaine et mise beaucoup aussi sur la vaccination. Au Danemark, 43% des 5-11 ans ont reçu leur première dose.
Et puis au Brésil, deuxième pays le plus endeuillé au monde, Rio renonce finalement à une partie de son carnaval. La parade populaire dans la rue est annulée. En revanche, le défilé des écoles de samba est lui pour l'instant maintenu fin février. La justice se prononce aujourd'hui sur l'action de groupe lancée par des victimes de la dépakine contre le laboratoire Sanofi. C'est une première en France dans le secteur de la santé. Le tribunal judiciaire de Paris doit dire si elle est recevable, cette action de groupe, et le cas échéant trancher aussi sur la responsabilité du laboratoire. Si le tribunal valide, cela ouvrira la voie à une indemnisation. Pour les autorités sanitaires, la dépakine est à l'origine de malformations et de troubles neurocomportementaux chez plusieurs milliers d'enfants. À 3 mois de la présidentielle, toujours pas de rassemblement à gauche. La socialiste Anne Hidalgo prévient. Il reste 1 semaine, pas plus, pour essayer d'organiser une primaire. Et elle tend une nouvelle fois la main à Yannick Jadot. Mais pour l'instant, c'est niette pour le candidat écologiste. Il est attendu à Bordeaux aujourd'hui, Antoine Gignot, avec une cible, les jeunes.
Une rencontre avec des apprentis, une autre avec des étudiants de Sciences Po. Et au milieu, Yannick Jadot veut aller faire un tour à la banque alimentaire pour parler précarité. Son équipe ne fait pas de mystère, il s'agit d'abord de toucher les jeunes, particulièrement ceux qui se sont investis ces dernières années dans les marches pour le climat ou les mouvements sociaux, explique Alice Timsit, responsable de la mobilisation de la jeunesse.
Cette campagne, bon, ça doit être celle de toute une génération. La génération climat, bien sûr, mais aussi contre le racisme, le sexisme, contre l'homophobie. L'objectif, c'est de redonner toute leur juste place à cette génération qui a besoin d'un nouveau souffle et d'un signal.
Ce signal pourrait pourtant prendre des allures inattendues pour le candidat écologiste. Yannick Jadot a prévu de s'arrêter dans un bar éco-responsable pour y rencontrer notamment un influenceur avec lequel il a déjà tourné une vidéo au mois de septembre. Problème, Matteo Ishak, c'est son nom, soutient désormais ouvertement l'idée d'une primaire de la gauche et des écologistes et il traite de menteurs les représentants politiques qui refusent d'y participer.
La seule solution, c'est l'union.
Comme un sparadrap un peu trop collant, la question du rassemblement risque donc une nouvelle fois de perturber la campagne.
Antoine Gignot, l'explosion qui a touché un véhicule du Dakar en Arabie Saoudite est-elle d'origine criminelle? La question occupe tous les esprits sur le rallye depuis jeudi dernier. Et voilà que cette hypothèse se renforce, car le parquet antiterroriste français se saisit de l'affaire. Enquête ouverte pour tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Et le soulagement, c'est le soulagement au sein de l'équipe Saudi Cars, dont le pilote Philippe Boutron a été grièvement blessé aux jambes. Marie-France Esténave est la porte-parole de l'équipe.
Rien n'est trop tard, c'est ce que nous attendons depuis le jour de l'accident, parce que les autorités saoudiennes maintiennent leur position d'explosion du moteur et que nous savons parfaitement que c'est une bombe qui a été placée dans l'engeron.
Vous le dites depuis le début ?
Oui, je maintiens cette position après avoir écouté les occupants de la voiture, parce que déjà dans les jambes de Philippe, eh bien, il y a beaucoup d'éclats de plastique. Et ça, c'est une façon de voir les choses. Et puis, vu le trou et vu ce qu'ils ont trouvé sur le longeron, je pense qu'il n'y a pas d'erreur.
Donc vous êtes soulagé ?
Complètement. D'abord pour Philippe, qui est en train de se battre pour sa vie, et pour toute l'équipe qui a vécu cette horrible journée. Notre requête est entendue et ça c'est important.
Et de leur côté, les autorités saoudiennes affirment toujours, elles, que cette explosion est un accident. Aux États-Unis, à la veille du premier anniversaire de l'assaut contre le Capitole, Donald Trump fait marche arrière. Il renonce à sa conférence de presse prévue demain, un an après, jour pour jour. Cette prise de parole était vécue comme une provocation par ses opposants, mais elle suscitait aussi pas mal d'embarras au sein du camp républicain. On va y revenir dans le journal de 8h. Et dès maintenant, sur franceinter.fr, dossier complet. Que sont devenus les protagonistes de l'invasion du Capitole. Et pour finir, une réjouissante histoire d'amour adolescent pour lancer l'année au cinéma. C'est la belle surprise de ce début janvier. Licorice Pizza, le nouveau film de Paul Thomas Anderson qui nous emmène dans la Californie des années 70 avec à l'affiche un nouveau couple de comédiens très prometteurs, Corinne Pellissier.
C'est avec la BO et la mise en scène l'un des points forts du film, le choix des comédiens pour incarner cette histoire adolescente au ton léger et insouciant qui vous transporte immédiatement dans l'atmosphère de la Californie des années 70 et la vallée de San Fernando où ont grandi les deux héros du film, Gary Valentine, Alana Kane, le lycéen dragueur et l'apprenti photographe, pas vraiment amoureux mais inséparables malgré leurs 10 ans d'écart.
Why should I give you my phone number?
So I can call you?
Don't call me all the time, okay? We're not boyfriend and girlfriend.
Un premier rôle pour chacun des acteurs que Paul Thomas Anderson a dirigé quasiment comme s'ils étaient ses enfants. Cooper Hoffman, 18 ans, fils de son ami et comédien fétiche disparu, Philip Seymour Hoffman, déjà une gueule, une présence, un vrai sens du jeu. Et Alana Haim, 30 ans, musicienne dans un groupe de rock, symbole absolu du cool, avec ses longs cheveux noirs et ses pantalons pas de def, pour incarner avec brio le visage de la jeunesse des années 70.
She has a natural talent, and so does Cooper as well.
Elle et Cooper ont une aisance incroyable et beaucoup de talent. Dès la première lecture du scénario, c'était d'une telle évidence que vous l'auriez noté vous aussi.
Difficile de faire plus tendre et authentique que ce film tourné quasiment dans le jardin du réalisateur, bien plus profond qu'il en a l'air et rempli de vitalité.
Licorice Pizza, c'est un film France Inter et c'est en salle aujourd'hui.
Merci Alexis Morel. L'édito politique à suivre.